Plus d'un élève par classe serait touché en France par le harcèlement scolaire. Y lutter est devenu une priorité gouvernementale qui se décline dans les établissements. Mais comment ? Deux protocoles sont mis à la disposition. Un protocole non blâmant et un protocole disciplinaire. Explication avec la responsable départementale de lutte contre le harcèlement scolaire dans les Hautes-Alpes, Gwenaëlle Tarantola. À BFM d'ici, en grève, 90% du personnel a suivi l'appel du SNJ et de la CGT. Des menaces de fermeture pèseraient sur la chaîne d'information locale. Préviplus, une nouvelle appli météo qui vient des Alpes du Sud. Paul Marquis, le prévisionniste indépendant de Météo Alpes, en est à l'origine. Sa promesse, offrir des prévisions météo locales qui sont expertisées par des prévisionnistes indépendants. Le lycée Carméjane à Saint-Jurçon a l'honneur aujourd'hui jusqu'à 16h. Il accueille la finale sud des Ovimpiades des jeunes bergers, concours régional qui s'adresse à des élèves de 16 à 24 ans dans des établissements agricoles. 500 000 visiteurs sont attendus pour les vacances de Noël dans les Hautes-Alpes, une période qui représente 20% de l'activité de la saison hivernale. Les chiffres sont prometteurs. Le meilleur sommelier de France est cisteronné. Il s'appelle Bastien Debonneau. Il a 32 ans. Rencontre dans le journal. C'est le dossier de la rédaction, le harcèlement scolaire, un phénomène qui touche plus d'un élève par classe selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans le détail, 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens avouent en avoir été victimes. Une priorité gouvernementale qui se décline sur le terrain dans les établissements scolaires. Des personnels sont formés pour être ressources, c'est le dispositif phare. Ils sont à même d'intervenir et de recueillir la parole. Dans les Hautes-Alpes, on recense également deux responsables départementaux de lutte contre le harcèlement scolaire. Gwenaëlle Tarantola a en charge les collèges et les lycées. Quelles sont les réponses apportées lors d'un cas de harcèlement ? Écoutez-la.
On a deux possibilités. Soit on est sur un protocole déjà à l'intérieur de l'établissement qui va passer par ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée, qui est une méthode, dans un premier temps, non blâmante pour des situations d'intimidation, pas encore qualifiées de harcèlement. On va se préoccuper tous ensemble pour la cible et on peut voir des auteurs, on peut voir des témoins. On peut leur demander, eux, de se mobiliser pour essayer d'apaiser cette situation, de comprendre ce qui se passe pour l'autre élève. Et donc, on fait appel à l'empathie des élèves. Et on est dans un travail éducatif fort. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'à la fois, ils prennent conscience qu'ils sont dans un collectif et qu'on doit se préoccuper des autres. Et à la fois, de la limite des actions qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et puis après, sinon, on a aussi le protocole national qui, là, on est sur une procédure plus disciplinaire. Ça peut aller de l'avertissement jusqu'à la convocation du conseil de discipline. C'est le chef d'établissement qui va bien sûr statuer sur la sanction. Mais les personnes sur place vont évaluer la situation et la gravité des faits.
La réponse disciplinaire n'est donc pas automatique, ce qui est parfois incompréhensible pour les familles dont l'enfant a été victime de harcèlement scolaire. Aymeric Metz, directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Hautes-Alpes.
Et c'est pour ça que la première chose qui est faite lorsque l'on rencontre la famille, c'est bien d'échanger avec eux sur ce que vit leur enfant. Avec un objectif commun, c'est celui qu'il aille mieux. Effectivement, là, la demande de sanction, qui est une demande finalement naturelle, humaine, que l'on peut comprendre, mais la vraie attente de la famille, c'est que son enfant aille bien. Et si on arrive ensemble à faire que son enfant aille mieux, en général, la demande s'apaise. Et parfois, effectivement, ça passe quand même par une sanction si, comme disait Mme Tarantola, si la réponse en première étape n'a pas suffi, il faut parfois une sanction. On a même la possibilité maintenant, dans le premier degré, c'est-à-dire dans les écoles, d'aller jusqu'à déplacer un auteur de faits de harcèlement.
Dans les écoles.
Y compris dans les écoles.
Et sachez que l'objectif dans les Hautes-Alpes et partout en France est de parvenir à former 100% des personnels de l'éducation nationale à la lutte contre le harcèlement scolaire d'ici 2027. Je vous le disais dans les titres, BFM d'ici, en grève, 90% du personnel a suivi l'appel du SNJ et de la CGT. La chaîne d'information locale embauche une quinzaine de personnels, mais selon les syndicats, des menaces de fermeture pèsent sur 3 antennes. BFM Toulon-Var, Grand Littoral et donc d'ici. Quant à BFM Paris, elle a fermé. Si le nouveau directeur général s'est rendu à Chorges, siège de la locale alpine en début de semaine pour rassurer les équipes, Nous n'avons pas de projection, estiment les organisations. Elles demandent d'avoir l'assurance qu'aucune autre chaîne locale ne fermera dans les deux prochaines années et que la masse salariale ne sera pas réduite. Les syndicats veulent également reprendre rapidement des négociations sur le temps de travail des antennes locales de BFM pour obtenir 21 jours de repos, une augmentation de 30% des forfaits jours, la prime synergie et la prime horaire décalée. Aucun programme ne sera donc diffusé aujourd'hui sur BFM d'ici. Les urgences de Manosque seront bien ouvertes en journée du 24 au 30 décembre inclus. Le service ne sera par contre pas accessible la nuit entre 18h30 et 8h30 à l'exception du 30 décembre. Il est donc recommandé de faire le 15 pour bénéficier d'une régulation. Les adresses et les distances des urgences de Digne-les-Bains, Sisteron, Pertuis ou encore Aix-en-Provence seront affichées à l'entrée du service. Notez que le SMUR restera maintenu 24 heures sur 24, tout comme l'accueil des femmes enceintes. C'est un sujet qui passionne, bien souvent l'objet de nombreuses conversations. Quel temps fera-t-il dans les jours qui viennent ? La météo est aussi une préoccupation pour de nombreuses professions. On compte désormais dans le champ des outils de prévision une toute nouvelle application mobile, Prévi Plus, lancée par le prévisionniste indépendant de Météo Alpes Durance, Paul Marquis. Sa promesse est simple, offrir des prévisions météo locales qui sont expertisée. Il a fallu 2 ans à Paul Marquis pour la créer avec l'entreprise Dealcover basée à Aix-en-Provence. Paul Marquis s'est entouré de prévisionnistes indépendants. Chaque département a donc son professionnel. Tout est fait à la main par un humain, comme il le souligne au micro d'Alpe 1.
Il faut savoir que 95% des applications sont entièrement automatiques. Donc c'est des données qui vont être brutes, qui ne seront pas expertisées. Donc du coup, parfois, on aura la météo, par exemple, pour Gap, qui sera la même dans l'application que pour Embrun. Alors qu'on sait très bien qu'effectivement c'est pas le cas. Donc là, c'est le prévisionniste qui va intervenir. Effectivement, lui, son travail, c'est de d'écrire un texte de manière quotidienne pour chaque département. Donc là, pour les Hautes-Alpes, c'est moi qui fais les prévisions. Donc là, il y a une vraie différenciation dans l'application du secteur de l'Embrunné, du Briançonnais, du Quéra, encore du Capensé. Donc c'est fait sous forme de texte, de picto, c'est assez bien fait. Et surtout, il y a aussi tout ce qui est notification. Donc là, c'est envoyé parfois, quand les prévisions sont mises à jour, vous avez une notification, quand il y a un risque de neige, de tempête ou d'orage. Donc là, c'est vraiment du direct en temps réel, ce que ne peut pas faire une application dite automatique. Donc là, la plus-value, c'est que le prévisionniste met à disposition ses compétences au profit du plus grand nombre de personnes, en tout cas par territoire. Certains services de l'État étaient parfois défaillants sur certaines alertes météo, qui étaient trop longues à venir ou parfois assez imprécises. Donc on s'est dit qu'on pouvait mettre à profit effectivement le fait que les gens soient passionnés sur un territoire. Donc c'est beaucoup plus précis d'avoir une personne qui fait la prévision pour un département. Souvent c'est plus fiable qu'une personne qui fait une prévision sur une région entière ou la France entière.
Notez que pour l'heure, cette application concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais elle doit s'étendre sur tout le territoire national d'ici quelques mois. Une application Prévi Plus qui est d'ores et déjà disponible gratuitement. Le lycée Carméjeanne à Saint-Jurçon accueille la finale sud des Ovimpiades des jeunes bergers. Un événement ce jeudi jusqu'à 16h pour assurer le renouvellement des générations et le maintien de sa production. Des Ovimpiades qui s'adressent aux jeunes de 16 à 24 ans, élèves dans des établissements agricoles. Les deux candidats arrivés en tête du classement de la finale régionale pourront concourir pour le titre de meilleur jeune berger de France 2025 lors de la finale nationale. Elle se tiendra le 22 février prochain au Salon international de l'agriculture à Paris. Ce chiffre dans l'actualité, 500 000 visiteurs attendus dans les Hautes-Alpes pour les fêtes de fin d'année, une période qui représente tout de même 20% de l'activité de la saison hivernale, comme l'indique l'agence de développement. Les chiffres sont prometteurs, le taux d'occupation moyen des hébergements touristiques pour les 2 semaines des vacances scolaires est de 75%, c'est une hausse de 5% par rapport à l'an dernier avec, comme à l'accoutumée, une seconde semaine pour le nouvel an qui sera meilleur. Et pour l'ensemble de la saison d'hiver, les 27 stations des Hautes-Alpes enregistrent une hausse prévisionnelle de fréquentation de 2% comparée à l'hiver dernier. DLV Agglo sensibilise sur les déchets. La période de fête de fin d'année est celle où l'on produit le plus et celle où l'on gaspille le plus également. La collectivité souhaite donc sensibiliser avant Noël et appelle à opter pour des cadeaux éco-responsables emballés dans du papier cadeau durables comme des pochettes en tissu, privilégier les décorations peu consommatrices d'énergie, éviter les produits à usage unique. Pour l'après-réveillon, le tri est à respecter avec les emballages, papier bulle et papier cadeau dans la poubelle jaune et les coquilles diverses dans la poubelle d'ordures ménagères. Quant aux appareils électriques et électroniques, les habitants sont invités à les déposer dans les déchetteries. le meilleur sommelier de France est cisteronné. Il s'appelle Bastien Debonneau, 32 ans. Après une phase de sélection et des demi-finales pas évidentes pour le Bas-Alpin, eh bien, il a terminé en tête de la finale aux multiples épreuves. Le 3 novembre dernier, devant un public de 500 personnes, Bastien Debonneau a dû identifier 5 vins et en commenter un seul en 5 minutes, proposer un service de vin rouge, identifier des spiritueux, proposer les meilleurs accords avec des mets cuisinés par le chef Gilles Goujon, sans oublier des présentations en anglais. Toutes ces épreuves changent chaque année, ce qui nécessite une grande préparation de plusieurs mois. Bastien raconte sa méthode de Bonneau.
Mon objectif, c'était d'être préparé sur le maximum du sujet, déjà sur le point de vue théorique, mais aussi sur le point de vue de méthodologie des réponses. Donc mon travail, c'était au quotidien toujours de la théorie, le matin, c'est là où je fonctionne le mieux. Après, à midi, mes équipes me préparent toujours 3-4 vins d'identification à l'aveugle que j'avais acheté. Après, on fait les eaux de vie. Et parfois, ils me posent une question, je leur ai dit, voilà, d'actualité, ce que vous voulez, vous me posez une ou deux questions. Et après, les week-ends, une fois par mois ou une fois tous les deux semaines, avec un coach sur des ateliers, des mises en scène, soit ils venaient avec moi, donc avec Olivier, soit ils venaient me préparer, soit j'allais le voir au CFA de Groisy. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu me préparer. Le résultat, on le mesure, mais l'investissement, les investissements sont colossaux. On est à peu près entre 7 et 10 000 euros par an pour chaque concours. Et pour après, en général, voilà, ça fait partie aussi de mon travail d'aller de me déplacer chez les vignerons, mais c'est pas obligatoire. Mais grosso modo, un concours, oui, c'est 7-10 000 euros.
Bastien Debonneau qui était à Sisteron ce lundi pour présenter son titre au maire de la commune. Véritable star, comme n'a pas hésité à dire Daniel Spagnou. Le maire de Sisteron le connaît bien, il y a 32 ans, c'est lui qui avait signé l'acte de naissance et bien de l'actuel meilleur sommelier de France.
Son papa est agriculteur à Saint-Genier, il a fait ses études à l'école hôtelière de Sisteron. Et donc c'est un honneur pour la ville de Sisteron. Après avoir eu le meilleur sommelier du monde avec M. Forbrac, nous avons aujourd'hui donc le meilleur sommelier de France. Voilà donc. Et ça montre que dans nos petites villes rurales et de montagne, eh bien on a quand même des gens de grande valeur qui arrivent à faire leur chemin. Je me souviens quand il est né, eh bien son père, bien sûr, était heureux. Parce qu'il disait, ben ça y est, j'ai un successeur pour mon exploitation de l'agneau de Sisteron. Et puis finalement, regardez, ben, il n'est pas agriculteur, mais il est premier sommelier de France et justement, il est demandé de partout. Une ville se construit aussi autour de personnages qui sortent de l'ordinaire, qui deviennent un peu des stars. C'est une star, lui, dans le milieu de la restauration. Il va dans le monde entier quand... Il dit, ben, d'où vous êtes? Il dit, je suis de Sisteron. Eh bien, vous rendez compte de la publicité que ça nous fait.
Bastien Debonneau est à retrouver aux côtés du chef du restaurant 2 étoiles, la table de Johan Comte. Le sommelier Bas-Alpin et le chef savoyard proposent leur combinaison à Verrier-du-Lac, sur les bords du lac d'Annecy.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.